Chapitre 13. Comment la divine sagesse est à la fois aimable et terrible. Combien ses voies sont cachées. Le disciple. Sagesse éternelle, vous qui êtes si douce et si aimable, comment êtes-vous si sévère et si terrible? D'où vient cette lumière qui plaît et qui effraie? Lorsque je vois les rigueurs de votre justice, je tremble de tous mes membres, et je dis en soupirant, « Malheur à qui vous offense, car vous exercez en secret votre justice, même envers vos plus chers amis, et vos jugements sont sans appel. Que votre visage est terrible. On dirait un ciel noir et plein d'orages, dont les tonnerres et les feux vont bouleverser le monde. Qu'est donc devenue votre patience miséricorde? Votre colère est plus à craindre que les flammes de l'enfer. Comment dire que vous êtes aimable si vous nous glacez d'épouvante? La sagesse. Je suis fidèle et je ne change jamais. C'est vous qui changez. Puisque vous vous présentez tantôt avec une conscience pure, tantôt avec un cœur souillé par le péché. De ma nature, je suis l'ami des âmes. Mais je suis juste aussi. Et je sais me faire craindre en châtiant sévèrement les pécheurs. Le but de ma sagesse, en demandant à ceux que j'aime une crainte chaste et filiale, un amour tendre et sincère, n'est-il pas de leur inspirer l'horreur du péché et de les unir à moi par des liens indissolubles? Le disciple. Cela est vrai, Seigneur, et vous m'expliquez le plan de votre divine providence. Mais ce qui m'étonne encore, c'est qu'une âme qui brûle de votre amour et qui soupire après les douceurs de votre présence ne vous trouve pas et n'obtient pas de vous une seule parole. Pourquoi, quand on vous aime, fuir et vous taire de la sorte? La sagesse. Toutes les créatures ne parlent-elles pas? Ne répondent-elles pas pour moi? Le disciple. Mais cela suffit-il à l'amour? La sagesse. Tout ce que j'ai dit sur terre de tendre et d'aimable doit suffire aux âmes qui me cherchent. Les saintes écritures ne font-elles pas connaître tout mon amour? Le disciple. Mais Seigneur, que sont vos paroles et vos écritures quand on désire votre présence? Lire les lettres d'un ami et recevoir de ses nouvelles n'est pas le posséder. Et vous, mon Jésus, vous êtes un ami si doux, si beau, si divin, si incompréhensible, que tous les anges me parleraient de vous sans pouvoir apaiser mon cœur et l'empêcher de soupirer après votre présence. Ne m'êtes-vous pas plus cher que le ciel tout entier? Où est la fidélité de votre amour? L'épouse dont vous avez ravi le cœur vous attend. Elle vous désire, elle gémit, elle soupire. Elle se meurt du besoin de votre présence. Elle vous crie du fond de son cœur. Revenez, revenez. Elle dit à ses compagnes, répondez, je vous en conjure. Ne l'avez-vous pas trouvé? Viendra-t-il? Ne viendra-t-il pas? Le posséderai-je enfin dans mon cœur ou restera-t-il éloigné pour me faire mourir? Seigneur, vous entendez les gémissements et les cris de l'âme qui vous aime, et vous gardez le silence. La sagesse. Oui, je les entends, et avec délice. Mais dis-moi, puisque tu t'étonnes de mon silence, quelle est la plus grande jouissance que puisse ressentir l'ange le plus élevé du paradis? Le disciple. Seigneur, je ne le sais pas. Dites-le-moi vous-même. La sagesse. La plus grande jouissance que puisse ressentir l'ange le plus élevé du paradis est de soumettre toute chose à ma volonté. Si ma volonté est de lui faire arracher les mauvaises herbes, et des orties dans un champ, il l'accomplira de tout son cœur et avec un plaisir infini. Le disciple. Je vous comprends, ô mon Jésus. Vous voulez m'apprendre que le véritable amour doit entièrement s'abandonner à la volonté de l'objet aimé, et que, selon sa décision, le doux doit lui plaire autant que la mer, la ferveur et les consolations autant que la sécheresse et l'abandon. La sagesse. Oui, certainement. La plus parfaite soumission d'une âme est celle qu'elle met dans la privation de toute faveur et dans l'abnégation complète d'elle-même. Le disciple. Cela est bien difficile. La sagesse. Mais où s'éprouve la vertu, si ce n'est dans les choses contraires? Tu dois savoir aussi bien souvent, lorsque je visite les âmes, je me trouve indignement repoussée et traitée comme un étranger. Quant aux âmes qui m'aiment, non seulement je viens en elles avec l'effusion de la tendresse, mais j'y reste, j'y habite, j'y fixe ma demeure secrète. Et personne ne s'en aperçoit, excepté le petit nombre qui vit solitaire, éloigné des choses de ce monde, et le cœur tourné vers moi pour connaître mes désirs et les suivre.